Alors, les petits qui sont en haut, ici, je peux parler normal. Hop, attendez un peu. Il n'y a pas de son, hein? Là, il y en a. C'est quoi, il est supposé. Galates au chapitre 6. On va lire un verset qu'on a lu à date comme départ de nos messages. Ben là, on est rendu au message numéro 2. Donc, la semaine passée, j'ai dû prêcher. Oui. Ouais, c'était mon ski la semaine passée ou c'est l'autre d'avant? Ah, c'est mon ski la semaine passée. Fait qu'on relit Galates 6. On va lire, on commence au verset 12, mais surtout le verset 14. Je veux qu'on regarde. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ben, le verset 14, hein, c'est beaucoup, je dirais pas mal le verset qui est le verset thème de la série. La série s'appelle « Tout est accompli, vivre à la lumière de la croix ». On voit comment Paul s'exprime au verset 14, il dit « Vivant à la lumière de la croix ». Pour lui, il avait une pensée, il avait... Là, vous allez voir, on va voir vraiment justement ce concept-là de une pensée. OK? Là, pour ceux qui connaissent la langue anglaise, en anglais, on dit « single-mindedness puis double-mindedness. Okay? On dit avoir une pensée singulière ou être partagé, être irrésolu. Okay? Je veux vous introduire d'abord à ça parce que ici, ce qu'on voit, là, Paul était résolu. Il y avait vraiment, il y avait une pensée, la croix. Okay? Et donc, cette disposition de Paul est en contraste avec ce qu'on voit dans Jacques au chapitre 1, verset 8, puis au chapitre 4, verset 8. Où est-ce que ça parle de l'homme irrésolu? Parce que j'ai dit les expressions en anglais parce que littéralement, en grec, c'est « di psycho », deux pensées, deux opposés. Okay? Donc, quelqu'un qui est irrésolu, quelqu'un qui a, c'est l'inverse de quelqu'un qui a une pensée, la croix. Ben, il y a la croix, mais... OK? Ben, j'aimerais qu'on regarde ça un petit peu ensemble, après-midi. Il y a seulement une solution au problème qu'il y a dans le genre de quelqu'un d'être irrésolu, d'être partagé. Ben, pour passer de Jacques à Galates ici, là, hein, Paul qui dans Galates est vraiment, lui il est bien résolu. La solution c'est la convergence de nos désirs, de nos affections vers un même centre, vers une même motivation, la croix. La justice de Dieu, réconcilié avec son amour. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait dans notre vie. Il prend les choses de Christ, il nous les rappelle, il nous conduit dans toute la vérité. Donc, c'est Dieu qui nous ramène toujours à l'essentiel, à cette croix, qui est la réconciliation, la rédemption. C'est ce qu'on a comme point focal de nos vies. Et je dirais que dans son essence, on peut dire que la pensée de Paul se résume par ceci. Moi, je vis pour une raison, c'est la croix de Christ. Puis là, quand je parle de la croix, il ne faut pas penser que je néglige la résurrection, mais la croix est la voie vers la résurrection. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de résurrection. Et la croix a ouvert la porte à la résurrection. Le chemin de la vie, c'est par la mort. Fallait que le grain de blé meure. Pour qu'il puisse porter du fruit. Il fallait que Christ meure pour qu'il puisse ressusciter. Et donc, c'est pour ça qu'on parle comme ça de la croix, parce que c'est la porte d'entrée, c'est le moyen. Et aussi, on voit par la croix, c'est la réconciliation. Hein? Christ, qui lui juste meurt pour nous injuste, la justice de Dieu réconciliée avec son amour. Et donc, on a de la suite des idées aujourd'hui. Savez-vous quoi? C'est comme par hasard, c'est drôle. Hein? La semaine passée, vous rappelez-vous, j'avais dit que j'avais changé de message. Le message d'un matin, normalement, je l'aurais prêché la semaine passée. Puis ça n'aurait pas fité avec celle-là aujourd'hui sur la croix comme ça. Fait que je pense que, non seulement je pense que la semaine passée, Dieu avait ce qu'il y avait pour nous de la semaine passée, puis il a dirigé pour aujourd'hui vraiment qu'on parle de la croix comme ça. Fait que je suis heureux de vous annoncer qu'on ne va pas en revenir aujourd'hui de cette croix qui nous est toujours chère. Amen. Et donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, Paul avait cette résolution, il était centré sur la croix. Puis on peut dire que dans la vie chrétienne, là, c'est quoi la lutte de la vie chrétienne? Là? Bien, c'est la lutte entre être... Là, il y a plein de mots qui me viennent en anglais, OK? Focus, là, focusé, en tout cas. D'être concentré, ouais, sur une chose, tu sais, pas d'autre pensée que la croix de Christ. Puis on, dans Corinthiens, d'ailleurs, un matin, on l'a pas lu le passage, mais il a dit, j'ai pas eu d'autre pensée parmi vous que Christ et Christ crucifié. Donc, Paul avait ça. Puis le combat de la vie chrétienne, c'est d'avoir cette disposition qui est unique, qui est centrale, versus être partagé. Avoir ça plus. Avoir ça, mais tu sais... Puis la Bible parle de l'idée de... C'est comme boiter. Comme ça dit avec les gens à l'époque d'Élie, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Puis ça parle de trébucher dans Jacques au chapitre 3. De broncher, là, c'est comme c'est trébucher. Ou pour le dire autrement, le combat de la vie chrétienne, c'est est-ce que c'est moi ou Christ? Est-ce que c'est la croix ou c'est le monde? Fait qu'on parle de tout ça, là. T'sais, une affaire versus divisé en deux. Et là-dessus, allez, là, je vais vous amener un passage obscur, puis je vais vous faire dire quelque chose sur un passage obscur. Ça vous tente-tu? Allez, je vais vous lire Deutéronome 22:10. Ça, on n'entend pas ça souvent dans les messages, dans les versets du dimanche matin. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelé ensemble. Allez, ça prêche, mon ami, là. Le message, c'est juste là-dessus après-midi. J'ai presque fini, j'arrive à ma conclusion. Non, écoutez bien. Ça, ce n'est un. L'autre, ça, c'est Deutéronome 22:10. Et Lévitique 19:19, tu ne porteras point un vêtement tissé de deux espèces de fils. Toutes les Écritures pointent à Christ. Et l'idée ici, là, OK, faites-vous en pas, là. Moi, je ne sais pas, elle fait de quoi, je ne sais pas si c'est 100% coton, là, puis, tu sais... Oui, OK, merci, ma femme l'a repassé hier à 100% coton. Bon, puis là, on n'a pas de laboureur ici, là. Puis je pense que ça irait pas très bien un homme et un bœuf ensemble en partant, là. Tu sais, je pense que c'est pas une très bonne idée. Je pense que l'homme était têtu, puis en tout cas, je pense pas qu'il céderait bien, bien. Mais l'idée, là, OK, avec cette image de l'Ancien Testament, là, c'est Dieu qui pointait à toute cette idée-là de pas se mettre sous un joug étranger, de pas tirer à deux places en même temps. Donc, dans le service, puis aussi même... Notre identité, tu sais, quand il dit pas deux vêtements, là, tu sais, on a une identité unique. Tu sais, Christ est ma vie. Je veux dire, c'est pas Christ plus. Comprenez-vous? Fait que ces images-là, ça nous montre que dans notre service pour le Seigneur, puis notre identité, encore là, c'est une chose. Pis ces choses, c'est comme des détails. Ça a l'air de détails, mais ça nous pointe tout à Christ. C'est pas un mélange de deux. C'est une chose. Et, dans le fond, ce que Dieu communiquait là, il dit, je veux pas que vous soyez caractérisé par un mélange du monde et de moi. Hein, comme ils ont fait plus tard, parce qu'on appelait ça à l'époque, là, je vais vous sortir un gros mot théologique, du syncrétisme religieux. Les Israélites avaient, OK, le Dieu de la Bible, voulait mettre de leur côté, pas trop le choquer, mais ils prennent une coupe d'idole des fois, tu sais, pour les récoltes, puis la fécondité, pour être sûr que, tu sais, il allait avoir tout de couvert, là. Mais Dieu, c'est... Il en parle beaucoup dans les prophètes, il en parle dans les livres historiques, mais ça y déplaît complètement. Pourquoi? Parce que c'était un mélange. Comme ici avec, tu sais, il s'attelait avec un autre animal. Il était vêtu, comprenez-vous? Dieu est jaloux. Il veut être seul, sans compétition. Sa présence seule, et c'est ce qui suffit. Puis un autre passage pour pousser dans le même sens, vous le connaissez sûrement. Ne vous mettez point sur avec les infidèles sous un joug étranger. C'est ça l'idée, là, avec Deutéronome, là. Puis là, ça dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de comment entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est unique. On n'est pas fait pour être mélangé. On n'est pas fait pour être irrésolu. OK? Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et seront mon peuple. Donc, le problème ici des Corinthiens, dans ce que je viens de lire dans 1 Corinthiens 6, c'est que leur vie était partagée. Partagée en deux autorités, deux identités, le monde et Christ. Étant grec, il voulait paraître bien aux yeux du monde, la sagesse du monde. On en a parlé ce matin, hein, des églises, on va être contemporain, mais ça a sorti dans le temps de prière. C'est vrai qu'on n'est pas une église très impressionnante avec nos beaux bancs jaunes-bruns, puis nos petits cantiques à l'ancienne. Puis on n'est même pas beau, hein, on est babouneux. Ah, mais on est accueillant, par exemple, on s'aime. On a l'essentiel. Mais comprenez-vous que c'est pas l'idée que c'est une fin en soi qu'on fait ci ou qu'on fait ça ou qu'on fait pas ça. L'idée, c'est ce qu'on veut. C'est une chose. Et ça, je rends gloire à Dieu. On veut Christ. On veut élever la croix. Puis ça, c'est bien suffisant. Le reste, c'est du fla-fla. Le reste, je veux dire, ah, si on avait un beau bâtiment, flambant nu, speak and span, OK. Mais tu sais, on pourrait être dans ça puis manquer l'essentiel. C'est pas, tu sais, c'est accessoire. Et je pense que, tu sais, pour faire un peu du pouce par rapport à l'importance d'avoir comme ça une pensée, d'être concentré, d'être résolu entre le combat entre la chair puis l'esprit, notre volonté versus celle de Dieu. Dans le fond, c'est ce qui fait que les chrétiens, souvent, on peut avoir de la misère de broncher, de boiter. Puis c'est ce que je pense qui souvent nous vaut l'étiquette des chrétiens. « Ah, vous êtes rude, vous êtes condescendant, vous êtes hautain. » Ben, c'est vrai puis c'est pas vrai. Un chrétien peut être ça. Quand c'est sa chair, parce que quand on est résolu, dans le fond, on écoute la chair. On n'écoute pas Christ en nous. OK? Puis ça, c'est désagréable. Même un chrétien, sa chair n'est pas agréable. OK? Donc, c'est vrai qu'un chrétien peut être de même, mais c'est parce qu'il ne vit pas sa vraie identité. Sa vraie identité, c'est ce que Dieu a fait de lui, d'elle. C'est ça la vraie identité d'un chrétien. C'est juste qu'il ne croit pas. Il ne croit pas ce qu'il est. Il ne vit pas ce que Dieu a fait déjà de lui. Il ne s'approprie pas la réalité. Il vit selon un mensonge. Spécial, hein? Mais là, on va voir, ça c'était mon introduction, deux postures. On va parler de notre posture, tu sais, face à Dieu, là, notre posture spirituelle. Deux postures qui nous disposent à vivre à la lumière de la croix. La première posture, c'est d'être en position d'ouverture face à soi-même. Okay? Pour vivre à la lumière de la croix, il faut que je sois ouvert par rapport à qui je suis vraiment. Autrement dit, pas me compter de mentir. Si vous voulez avoir la victoire sur le fait justement là, d'être irrésolu, puis un bord, puis l'autre, là, genre que un 8, puis si vous voulez marcher par l'esprit, ben il faut d'abord être prêt à découvrir la réalité, dans quelle mesure je suis irrésolu. Il faut être prêt à dire, OK, on va faire face aux choses telles qu'elles sont. On va pas essayer de mettre du crémage, mettre ça beau. OK, c'est quoi la réalité, Seigneur? Il faut être prêt à ça. Puis ça, c'est pas de l'introspection puis de la psychologie, c'est simplement ce qui est exprimé dans le psaume. Là, je vous donne le punch de la fin en plein milieu. Mais on va conclure avec ça, mais déjà, c'est simplement dire, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi et connais tout mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Dieu, toi, montre-moi à moi. Parce que des fois, on a de la misère à même se connaître nous-mêmes, se reconnaître. Et donc, être convaincu de voir nous autres où est-ce qu'on est spirituellement. Pas pour se battre et tu sais, se donner des coups de bible sur la tête, mais pour travailler à partir de ce qui est vrai. Puis que ça nous amène à Dieu, que ça nous amène tel qu'on est à se jeter dans les bras de Dieu. OK? Donc, c'est, on parle d'humilité ici, être prêt à faire face à la pas belle réalité de comment qu'on est spirituellement. OK? Comment on est vraiment. Et être prêt à l'humiliation parce que si on prie la prière là, du psaume, là, ben j'aimerais juste vous dire, on risque de ne pas aimer la réponse. Ça risque de donner un méchant coup à notre ego et à notre orgueil. Tu sais, si on veut se dire, hey, Seigneur, je te prie ça pour que tu vois à quel point je l'ai donc l'affaire. Puis que je ne suis pas comme mon frère, puis comme ma soeur, puis je suis moins pire que ma femme. Vous risquez de tomber de haut. Parce que ça va vous montrer, non, tu as tellement besoin de moi, mon enfant, là, tu t'en rends même pas compte à quel point. C'est ça l'idée. Être ouvert par rapport à toi-même, à quel point j'ai besoin de Dieu, à quel point je suis dépendant de lui, à quel point je ne suis pas autosuffisant. Puis c'est ça la croix, puis avoir une pensée, c'est je dépends de Dieu. Choisir la vie, c'est dépendre totalement de lui. Et donc, ça risque aussi de ruiner pas mal mon opinion que je peux avoir de moi-même. Qui, ça se peut-tu, peut être faussé par ma chair. Hein? Ah, mais je ne suis pas si pire que ça. Hein, la chance, souvent, on va penser comme ça. Parce qu'on peut avoir deux façons d'avoir une opinion erronée de nous-mêmes. Soit qu'on peut se penser trop bon, comme quelqu'un en haut tantôt que je nommerai pas, mais que je vais regarder. C'était des jokes qu'il faisait, là. Mais se penser trop bon, ça, c'est la forme évidente de l'orgueil. Ou se rabaisser, s'apitoyer, c'est la forme voilée, déguisée de l'orgueil. Les deux, c'est de l'orgueil. Les deux, c'est centré sur moi. Moi, moi, moi. Pauvre petit moi ou « Oh, regardez-moi ». Mais c'est quoi? C'est moi. C'est pas Christ. OK? C'est de l'orgueil. Vous connaissez tous l'expression « L'amour est aveugle »
Oui.
Ben, c'est vrai pour l'amour propre. L'amour propre est aveugle. Parce que, d'une façon subtile, profonde et solide, on peut se tromper nous-mêmes quand vient la question de l'amour propre. Parce que on est aveugle souvent à notre orgueil, on se voit pas si pire, puis on pense que, tu sais... Et donc, l'amour propre, c'est un peu comme la confiance en soi. On voit pas, tu sais, l'amour propre, comme la confiance en soi, on pense que c'est notre meilleur allié, alors que c'est notre pire ennemi. Tu sais, on a des qualités naturelles dans des choses. Ah, moi, je suis bon avec les gens. Ben, ça fait que tu as de la facilité à t'appuyer sur ta chair quand tu es avec les gens, puis tu t'appuies pas sur moi. Comprenez-vous? Ce qu'on pense qui est notre plus grande force, c'est notre plus grand handicap. C'est ça l'idée. Puis, tu sais, souvent, on est aveugle à ça parce que. Ah non, moi, je suis bon avec les gens. Oui, mais c'est toi. Les gens, c'est pas de toi qui ont besoin, c'est de Christ en toi. Fait que toi, il faut que tu tasses ta sagesse, puis que tu me fais. C'est ça, vivre à la lumière de la croix. C'est pas de toi, là, qui est question, là. C'est de Jésus en toi, là. Puis oui, je t'ai fait de même, puis je vais t'utiliser comme je t'ai fait. Mais il faut que la confiance, il faut que la pensée soit pas sur toi, mais sur Christ en toi. Parce que, ben, comme l'orgueil, la confiance en soi, l'amour propre, se déguise de manière à ressembler à notre pire, à notre meilleur allié, alors que c'est notre pire ennemi. Luther a dit, c'est une petite citation de Luther, le diable blanc est plus à redouter que le diable noir. Autrement dit, tu sais, les affaires qui ont l'air bonnes sont plus à redouter que ceux qui ont carrément de l'air pas bonnes. OK? C'est-à-dire que pour nous autres, là, face à, c'est facile de se tromper nous-mêmes. De penser qu'on a ses forces, ses qualités naturelles ici et ça. C'est vital d'être ouvert par rapport à soi-même. Seigneur, mets le projecteur, le spotlight de la croix sur ma vie. Je veux pas me faire des accroires. Je veux vivre à la lumière de la croix et donc je suis disposé, Seigneur, à me voir tel que je suis. Dans mes faiblesses, dans mes besoins, puis dans tout ça. Puis oui, mes forces, mais je veux pas que mes forces deviennent des appuis. Seigneur, tu m'as fait comme tu m'as fait avec tout ce qui, tu sais, le package deal qui vient avec. Utilise-moi. Et ça, mes amis, ça va qu'est-ce que ça va faire dans notre vie? Je disais que ça va donner un coup à notre orgueil, à notre ego. Ça va aussi démasquer la complaisance et l'apathie spirituelle. Écoutez ce que Dieu dit à une église, vous la connaissez, là. Ça, c'est pas l'église qu'on dit, hey, moi j'aimerais ça. J'aimerais ça que notre église soit comme les Laodicéens. Serais-tu le fun, hein? Hey, c'est pas, on n'entend pas ça. Mais écoute, regardez la tromperie, la contrefaçon, comment qu'ils se voyaient pas aller. Jésus ici, dans les lettres aux sept églises, on peut lire au verset 17, il parle à l'église, il dit, parce que tu dis, donc Jésus dit à l'église, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et oui, ils ne se rendaient pas compte de leur situation. Ils n'étaient pas ouverts par rapport à eux-mêmes. Ah oui, ça va bien, nous autres. Ça, là, c'est vraiment. Ça, c'est la pire situation spirituelle dans laquelle quelqu'un peut être. Penser que tout est beau, quand au contraire, le diagnostic de Dieu, là. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouvé, puis ça. Puis, je pense qu'il y a une progression. Ça, c'est la dernière des sept lettres de l'Apocalypse. La première, c'est quoi qu'elle se fait dire? Ce que j'ai contre toi, là, ah, tu fais des bonnes affaires, tu vois, à Éphèse, là, la première église, mais tu as abandonné ton premier amour. Notre premier amour, c'est la raison d'être. C'est ça le focus. Ma vie, c'est Jésus. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis je ne vis plus pour moi-même, j'ai été racheté un grand prix. C'est ça notre premier amour. Quand on oublie ça, On est en route vers l'accomplissement ultime qui est l'Église de Laodicée, de plus se rendre compte de notre état spirituel. Penser que tout est beau alors que c'est pas le cas. C'est pour ça que c'est tellement, si on veut vivre à la lumière de la croix, pour être en position d'ouverture par rapport à nous-mêmes. Seigneur, même si c'est pas beau, montre-moi moi-même. À moi. Comprenez-vous? Bon. Ça, c'est la première posture. Et la deuxième, être là, c'est du fun avec Dieu. Avec Dieu, là, il fait toutes choses à merveille. Dieu, il dit, ah, là, je vais te montrer, c'est pas sur toi-même. Je vais te montrer comment t'es pas bon, là. Puis tu vas voir, là, tu vas être tellement découragé, tu vas avoir le goût de lancer la serviette. Heureusement que ça finit pas au premier point. Oui, on peut être ouvert par rapport à nous-mêmes, puis oui, c'est pas beau, puis il faut être honnête, il faut être humble, de reconnaître notre besoin, puis OK, qu'on n'est pas autosuffisant, on est fait pour dépendre de Dieu. Mais la deuxième posture, c'est être en position d'ouverture face à la rédemption, ou vous pourrez dire la restauration. Lorsque Dieu nous humilie par rapport à nous-mêmes, OK, lorsqu'on passe par la première posture, Seigneur, je suis ouvert par rapport à moi-même, sonde moi, OK, puis je suis prêt à voir tout. Lorsque on est dans cette position-là, qu'est-ce qui va arriver? On va vivre la réalité de ce que ça dit dans Hébreux 4, 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Oh Dieu, tu sais absolument tout, puis tu peux me le révéler en plus. Dieu, il n'y a rien de caché pour lui, puis il révèle ce qui est caché. Et là, lorsqu'il met ça de l'avant, ça va avoir le bénéfice de montrer, de nous convaincre de notre besoin absolu de rédemption. Donc là, en ce moment, je vois ma situation telle que je suis, mais comment je vois la solution. Il y en a une, c'est Dieu lui-même, puis il vit en moi. OK? Les deux vont ensemble. Donc, lorsqu'on est exposé à la lumière, au projecteur de la croix, bon, mais la chair, elle va essayer ces techniques-là pour essayer de trouver des solutions, remédier aux problèmes. Autrement dit, c'est quoi les tactiques favorites de la chair? La contrefaçon puis l'imitation. Dieu nous montre le problème, puis là, nous, on essaie de trouver une façon de le régler. Rappelez-vous de la boîte de bain de la semaine passée? Dieu nous montre des choses, pour le régler, on essaie de compenser en faisant... Non, Dieu dit, humilie-toi, confesse ton péché. That's it. Pas de... Je vais essayer de compenser ou ça. Et en passant, la contrefaçon puis l'intimidation, ça nous montre comment que la chair marche main dans la main avec Satan. Parce que c'est qui le maître de la contrefaçon? C'est qui le maître de l'imitation? C'est qui se prend pour Dieu ultimement? C'est Satan. Ben, quand la chair fait ça, la chair est complice de Satan. Tu sais, la chair, là, elle n'a rien de bon, là. Autrement dit, lorsque Dieu nous montre notre nudité, là, okay, qu'on est à découvert devant lui et qu'on est face à la tentation, devant ce besoin d'essayer de nous sauver nous-mêmes, l'auto-rédemption, ben, en fait, on a le choix et c'est là qu'est l'importance d'accepter de se soumettre à sa rédemption, à la rédemption divine, à Christ qui vit en nous, puis d'accepter de s'humilier. Parce que c'est comme ça qu'on obtient la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et c'est ça, l'esprit là, d'être disposé face à la rédemption. Dieu, OK, tu me montres moi, mais l'étape suivante, c'est juste toi qui peux me restaurer. C'est juste toi qui peux faire de quoi avec quelqu'un qui est dans le besoin comme moi. Je suis ouvert à ta rédemption. Et on doit apprendre... Là, je vais amener un point important. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, là, ou même pas si longtemps, quand on est un milieu chrétien, maintenant, on apprend une phraséologie. La phraséologie chrétienne. Quand on est content, qu'est-ce qu'on dit? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On sait quoi dire, hein? On apprend tout ça. Ouais, des choses, comment dire? Bon, faut pas confondre la phraséologie avec l'expérience spirituelle réelle. On peut dire tous les bons mots, mais des fois, quelqu'un arrive un petit nouveau, il dit ça tout croche. Mais mon ami, il a le saut de la réalité de ça dans sa vie. Il l'a dit tout croche, mais ça sonne plus vrai que nous qui l'a tout bien dit. Et ça, il y a un piège, là. C'est ça, l'imitation, la contrefaçon. Faut faire attention non plus de ne pas confondre les belles paroles sur la sanctification, grandir dans le Seigneur, puis l'expérience réelle de vivre Jésus, notre sanctification, de façon concrète. Ou la connaissance de la vérité, de connaître les Écritures, de sonder les Écritures et tout, versus marcher par l'esprit de vérité, dans toute la vérité. C'est pas pareil. Il y en a que c'est de la contrefaçon, c'est de l'imitation, l'autre c'est de la réalité. C'est ça, s'ouvrir à la rédemption. Dieu, je veux le vrai deal. Je veux pas de la contrefaçon. J'ai été ouvert face à toi, je vois mon besoin, mais là, moi, je veux vivre le surnaturel. Je veux pas me contenter de quelque chose pas pire que je suis capable de faire. Non, je veux vraiment que ça soit toi qui, c'est évident, qui œuvre en moi. Hey, j'espère que je n'ai pas pogné quelque chose à la gorge. Ou c'est peut-être juste... c'est peut-être le quinoa qui n'a pas... On dirait que j'ai comme quelque chose de pogné dans la gorge. Je pense que j'ai un grain de quinoa de pogné dans la gorge. Hein?
C'est un
chat. Un chat. Un chat au quinoa. Moi, on a mangé du chinois à midi. Et donc, encore là, vraiment le thème du message, c'est facile de s'y méprendre. C'est facile de se tromper nous-mêmes. Il faut être ouvert par rapport à nous-mêmes puis par rapport à la rédemption. Je veux l'authentique, je veux la vraie rédemption. Et pour nous aider à comprendre ici, là, puis ça mène nos deux images ensemble. Tu sais, quand ça dit, là, je vous l'ai lu tantôt, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Comme plusieurs des écrits dans le Nouveau Testament, souvent on voit avec le langage qui est utilisé, c'est une image qui était prise du monde, ben on va dire athlétique, là. Il y avait des arènes à l'époque, des combats de gladiateurs. Ça, c'est le fun, hein? Non, c'était pas trop... c'était sanguinaire, puis celui qui gagnait, celui qui avait tué l'autre, habituellement. Hein? Puis là, il était pas trop vêtu non plus d'habitude, là, mais tu sais, il avait des armures, tout ça, m'a mené à force de se taper dessus, ben là, il pouvait perdre le bouclier ou tout ça, puis... L'image ici, là, c'est celui qui arrive au pied de l'adversaire, dépourvu maintenant de toute force, de toute... Tu sais, il n'y a plus rien. Puis là, il arrive, puis il est complètement... il est complètement à la merci de son adversaire. Puis tout ce qui lui reste, c'est d'invoquer la miséricorde de son adversaire. Il se jette à ses pieds, puis « Aie pitié de moi, laisse-moi vivre. » OK? C'est ça l'image qui est dressée ici. Et c'est ça l'idée de s'ouvrir à la rédemption. « Dieu, j'ai rien... » pour me sauver moi-même de la puissance du péché qui m'enveloppe si facilement. Je suis tanné de l'auto-rédemption, je suis tanné d'essayer de moi-même. Seigneur, je m'ouvre à toi, je veux que ça soit, je veux voir ta grâce, je veux voir le surnaturel. Avec ces péchés qui m'enveloppent si facilement, ces tendances depuis des années, ces pensées, ces inquiétudes, c'est ici puis c'est ça. Dieu, non seulement je me vois moi-même, OK, mais là je suis face à toi puis c'est toi que je veux. Je te veux toi pour toi, t'es ma vie, t'es ma délivrance, t'es ma rédemption. C'est ça, s'ouvrir. C'est vraiment d'arriver comme ce soldat-là, qu'il n'y a plus rien, puis dire, OK, je t'attends, merci. C'est comme ça que Dieu nous veut. Il veut nous montrer nous-mêmes pour nous vraiment nous délivrer complètement. C'est ça qui est glorifié, parce qu'à dire, regarde, t'as rien fait pour ça, c'est toute ma grâce, c'est moi, c'est beau, ça me montre dans ta vie. Fait que c'est simple, l'idée de vivre à l'image de la croix. À la lumière, à la croix, pardon. Ouvert par rapport à nous-mêmes, ouvert par rapport à la délivrance. Et là, j'ai une belle petite phrase pour vous autres. Elle n'est pas longue, je vous la répète deux fois. Ce que Dieu révèle à la lumière de la croix, l'Esprit de Dieu l'enlève. Donc, tu sais, Dieu veut oui. OK, point numéro un, être en posture d'être ouvert par rapport à soi-même. Mais c'est parce que Dieu veut vraiment... lui l'enlever, parce que Dieu révèle. Tu sais, je disais, c'est pas pour nous dire, tu fais donc bien Dieu, t'es le pire chrétien de l'Église, il n'y a pas une chrétienne comme toi. Non, non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut dire, sois honnête, parce que moi, je vais délivrer. Ce que je viens de te révéler, moi, je vais l'enlever, puis je vais mettre moi à la place. C'est ça, s'ouvrir à nous-mêmes, puis ensuite, pour que Dieu l'enlève, s'ouvrir à la rédemption, au surnaturel. Vous connaissez peut-être le psaume 27.1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il met en lumière, puis il délivre. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quel beau verset, hein? Et ça nous montre comment, justement, c'est ça. Simplement être disposé à vivre à la lumière de la croix, c'est ça la délivrance de ce qui nous fait peur, de ce qui nous donne de la crainte. Puis là, on se rend compte, lorsqu'on vit à la lumière de la croix comme ça, lorsqu'on est disposé, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre parce que Dieu est avec nous, puis Dieu est pour nous. La seule chose qu'on a à craindre, c'est nous-mêmes. De se tromper nous-mêmes, de se satisfaire nous-mêmes, de tomber dans l'apathie, de tomber dans les patterns de la chair. Mais avec Dieu, on n'a rien à craindre avec Dieu et de Dieu. Parce que Dieu, il est toujours bon, il est bienfaisant, il est vrai, puis il est fidèle. Et donc, ça m'amène à ce verset que je vous ai dit que j'allais revenir, puis on est rendu à la conclusion. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et je mets en parallèle un autre verset de la parole, Ésaïe 1, 25. « Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories. » Ici, c'est l'Éternel qui parle à Israël. « Je fondrai tes scories. » Les scories, c'est les impuretés. Quand on fait chauffer de l'or, ce qui ressort sur le dessus, c'est des scories, c'est des impuretés. Donc, « Je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. » Finalement, je vais te purifier. C'est ce que Dieu a fait avec nous autres, avec la croix. Il n'y a maintenant aucune condamnation en Jésus-Christ. On l'a vu ce matin, sagesse qui est prêchée parmi les parfaits. Dieu nous voit parfaitement parce qu'on est parfaitement lavé, pardonné, sanctifié, lavé, pardonné, tout le kit, okay, en Jésus-Christ. Mais Dieu veut faire une œuvre dans notre quotidien aussi, nous délivrer de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien qui peut nous séparer de Dieu, mais le problème du péché dans notre vie, c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui, de vivre à la lumière de la croix par rapport à moi-même puis de la rédemption de Dieu, ben ça nous demande simplement le courage de dire à Dieu, « Dieu, je viens à toi, puis montre-moi moi-même. » Ça prend du courage pour ça, parce que je vous l'ai dit, ça sera peut-être pas très beau ce qu'il va nous montrer, mais comme Jean-Baptiste, c'est ce qui prépare la venue du roi. Jean-Baptiste, c'était celui qui préparait, si on veut, la présence de Dieu dans nos vies. Puis Dieu est déjà présent dans nos vies, là. Mais la pleine liberté, la plénitude de sa grâce, cette disposition-là va faire toute la différence. Et écoutez là-dessus, justement, la prophétie sur Jean-Baptiste dans Malachie 3:1. Les deux. « Voici, j'enverrai mon messager. » Ça, c'est Jean-Baptiste. « Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » Et Dieu est un feu dévorant, mais on n'a rien à craindre quand on est en Jésus-Christ. On n'a pas à craindre pour craindre Dieu parce qu'il y aurait quelque chose contre nous autres. Mais lorsqu'on est disposé comme ça, on va voir toute sa grâce, comment lui œuvre, et ça va être une joie vraiment. Et c'est ça, vivre à la lumière de la croix, être disposé à vivre à la lumière de la croix. C'est d'avoir cette disposition-là. Et une dernière pensée. Il faut prendre le temps. Ça ne se fait pas en une journée. C'est pas une formule magique. Ces dispositions-là, c'est le quotidien. Tu sais, avec mon inspiration de la semaine passée, là, du ski de fond, là, toutes les fois, je dépends tout le temps de Dieu pour ne pas me geler le pied et avoir les orteils toutes recroquevillées de main. Puis Dieu l'a voulu de même, c'est bien parfait. Bien, Dieu aussi, il veut constamment qu'on vive avec cette ouverture devant lui puis cette ouverture par rapport à la rédemption. Il nous a fait pour que ça soit constamment le quotidien de dépendre de lui. Il n'y a pas une journée où est-ce que Dieu dit « Ok, aujourd'hui, c'est la journée de l'autosuffisance. Aujourd'hui, tu peux t'organiser tout seul, là, s'il n'y a pas de problème. » Ça n'arrive pas! C'est voulu par Dieu, puis c'est de même que c'est beau, puis c'est bien, parce que c'est là qu'on goûte comment Dieu est bon, comment il est fidèle, puis qu'il est toujours au rendez-vous quand on dépend de lui. Et oui, ça veut dire de la souffrance. Oui, ça veut dire d'être brisé. Mais c'est bon. Hey, voulez-vous que Dieu brise les affaires qui sont pas bonnes puis qui nuisent? Moi, je veux. C'est plate, là. Puis, je suis pas aussi bon. C'est dur de faire le pense-bon quand Dieu nous brise, mais le fruit est bon. La paix est douce. La joie est profonde. C'est ça, vivre à la lumière de la croix. Fait qu'encore là, comme à ma tête, c'est pas une belle petite croix, tout le fun que je vous prêche. Il y a un prix. Faut accepter de souffrir, faut accepter que tout sera pas tout beau, puis on n'est pas aussi bon qu'on pensait. Mais on va voir comment Dieu est beau, comment il est bien mieux que nous on aurait pensé. Parce que c'est ça, via la lumière de la croix, c'est découvrir notre Dieu. Et il n'y a rien de plus merveilleux c'est simplement de s'y ouvrir. Dieu, je suis ouvert. Opère ta délivrance. Fais ce que tu veux. Moi, je suis ouvert. Puis c'est toi qui vas décider jusqu'où ça va. Mais je suis joyeux de me placer sous ton autorité. Amen. Allez, je vais prier puis je vais vous donner l'occasion de prier par la suite. Merci, Seigneur. On veut apprendre ensemble c'est quoi vivre à la lumière de la croix. Et on est en train de mettre la table tranquillement pour la série. On va avoir plusieurs messages là-dedans. C'est une série qui va durer sur plusieurs semaines. Mais Seigneur, aujourd'hui, on voit la simple disposition. Tu veux pas des grands fla-fla, tu veux pas des belles grandes paroles, puis des fioritures, Seigneur. Tu veux une pensée. Comme Paul. Il n'avait pas eu d'autre pensée que Christ et Christ crucifié, puis il ne voulait pas prêcher d'autre chose que la croix. Et Seigneur, c'est aussi notre pensée. Seigneur, je suis irrésolu tellement facilement. Et quand c'est le cas, je boite. Puis je ne m'en vais pas droit. Mais Seigneur, je m'ouvre à toi et à ta rédemption. Le surnaturel, le wow de Dieu, de découvrir, il n'y a personne comme toi. Seigneur, c'est ce qu'on veut pour notre Église. On le disait ce matin, on n'est pas là pour faire des fla-fla et essayer d'impressionner. Seigneur, c'est toi qui impressionnes. Hey, tu as divisé une mer au complet en deux. Tu as fait tomber la ville la plus forte de toute la région juste avec la puissance de ta parole. Tu as créé les cieux et la terre, Seigneur. C'est toi, de toute évidence, qui est le seul qui impressionne vraiment. Et c'est ça qu'on veut, Seigneur. Impressionne-nous par ta grâce. Montre ta gloire dans les vases de terre que nous sommes. Et que tu en aies toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prier si vous voulez le faire.